International Rescue Committee présente la mini-série sur les normes minimales pour la programmation d'action de lutte contre la VGB qui met l'accent sur les vies de Claudine, Esther et Asma. Trois employés travaillant dans une organisation nationale de défense des droits des femmes. Cette série spéciale est diffusée sur le podcast « Protection et autonomisation des femmes » où nous donnons la parole aux femmes et aux filles dans les contextes humanitaires. Ce projet est rendu possible grâce au Bureau de l'aide humanitaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bienvenue au 10e épisode de la mini-série sur les normes minimales inter-organisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB.
Salut Claudine, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la salle d'approvisionnement?
Oh, rien de spécial, juste quelques exercices de respiration profonde.
Que se passe-t-il? Tu veux en parler?
Tu n'es pas venue là pour parler.
J'ai le temps. J'allais remplir l'imprimante de papier, alors dis-moi. Peut-être que je peux t'aider?
C'est juste à propos d'un cas que je gère. Nous avons organisé des séances, elle s'est fixée des objectifs et les choses étaient en train de progresser. Mais récemment, sa situation a empiré. Son mari la bat toujours, et je pense qu'il y a une solution à cela. Elle a juste besoin d'obtenir une ordonnance de protection.
Je peux comprendre que ça soit frustrant de voir quelqu'un souffrir, alors que tu sais qu'il y a quelque chose qui pourrait clairement l'aider.
C'est aussi que tout allait bien et que maintenant rien ne va plus. Genre, si ça ne change pas, comment suis-je en train de l'aider?
Tu sais, l'une des choses les plus difficiles à apprendre pour moi était que la gestion de cas n'était pas linéaire. Ce n'est pas comme à l'école, où l'on apprend de plus en plus et à la fin on obtient un diplôme. Travailler avec des survivantes, c'est monter et descendre, ou avancer et reculer. Et ça, c'est parce que nous sommes des êtres humains. Nous évoluons dans des situations compliquées, avec beaucoup de choses à prendre en compte lorsque nous prenons des décisions.
Donc tu penses que j'ai tort?
Il ne s'agit pas nécessairement de ce que je pense ou de ce que tu penses. Les femmes se heurtent généralement à des obstacles dans leurs efforts pour obtenir justice. Leurs ressources, mobilité et pouvoir de décision sont limités et elles ont peur de la stigmatisation et des représailles, des perceptions culturelles et d'autres problèmes comme le manque de confiance dans le système judiciaire. As-tu l'impression de lui avoir donné toutes les informations que tu pouvais lui transmettre? Lui as-tu parlé du processus et des différents types de résultats?
Je pense que oui.
Si tu as besoin de plus d'informations, il en existe dans les procédures opérationnelles standards sur la lutte contre la VBG, afin que tu puisses écouter et répondre à ses préoccupations à ce sujet.
Oh, c'est vrai. Je vais me renseigner à ce sujet. Mais...
qu'est-ce qu'il y a?
Eh bien, d'une certaine façon, j'ai l'impression que si je pouvais parler au mari, je pourrais peut-être régler le problème.
Comme une médiation?
Oui.
La médiation ne joue pas en faveur des femmes.
Mais pourquoi?
La médiation est une affaire de famille, de cohésion au sein de la famille et de la communauté, ce qui n'est pas toujours, ou même habituellement, en faveur des femmes. La médiation a un objectif différent de celui que nous avons. Nous nous concentrons sur la survivante individuelle, alors que la médiation vise quelque chose de plus large. Elle peut perpétuer la discrimination et faire courir aux femmes le risque de perdre leurs droits individuels au profit de la préservation de l'harmonie au sein de la famille. Et il est particulièrement néfaste en cas de violence domestique, et nous savons que la survivante en question n'en est pas à sa première expérience avec son mari. Parfois, la médiation peut par inadvertance pardonner le comportement de l'auteur de violence ou suggérer des solutions faciles à des problèmes complexes.
Je comprends.
En réalité, la médiation suppose que deux personnes arrivent à la table sur un pied d'égalité. Mais nous savons qu'il y a déjà une inégalité de pouvoir dans leur relation, notamment en raison de l'agression et du comportement abusif du mari. Pense à la sécurité et au respect de l'individu. Ces choses ne sont pas présentes dans la médiation.
Eh bien, qu'est-ce que je peux faire alors?
On dirait que tu n'es pas tout à fait sûre qu'elle dispose de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision concernant une demande d'aide juridique. Alors, pourquoi ne pas lui en parler, lui accorder et créer un espace pour les questions? Et n'oublie pas aussi que c'est à elle de décider. Sois à l'écoute.
Merci, Asma.
C'est quand tu veux, et pas seulement quand je suis en train de chercher du papier pour imprimante. Ok?
Ouais, ok. Fatoumata, merci d'être revenue. J'espère que le processus d'ordonnance de protection vous semble plus clair depuis qu'on en a parlé. Avez-vous d'autres questions?
Oui, le processus est clair. Je le comprends mieux maintenant. C'est juste que je n'en veux pas. Je pense que je suis à nouveau enceinte. Et je ne suis pas prête à passer à l'acte. Je veux ma propre forme de justice. Je ne veux pas parler à la police. Et pas seulement parce qu'il n'y a pas de femme là-bas. Je veux juste ma propre justice.
Je suppose que c'est ce que je pensais obtenir avec l'ordonnance de protection, mais j'aurais dû vous demander. Que signifie la justice pour vous?
Honnêtement, j'ai entendu parler de ce programme d'aide en espèces et de formation pour les femmes. J'aimerais en faire partie. Avoir le contrôle de mon propre argent et décider de ce que je vais faire pour ma famille. Cela représenterait une forme de justice pour moi.
Je n'y avais pas pensé de cette façon. Mais je vois ce que vous voulez dire. Voyons ce que nous pouvons faire pour vous référer à ce programme, d'accord?
Merci, Claudine. Je sais que vous vous souciez de moi et que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour moi. Je vous remercie aussi de me demander ce que je veux pour moi-même. J'ai l'impression que personne ne fait ça. Et ça fait vraiment du bien de prendre mes propres décisions. Je ne suis simplement pas encore prête pour les services juridiques.
C'est la moindre des choses, Fatoumata. Voulez-vous qu'on se retrouve à notre heure habituelle la semaine prochaine? J'aurai reçu des informations sur ce référencement d'ici là. Est-ce que ça vous va?
Oui, merci, Claudine. À bientôt.
La norme est que les secteurs du droit et de la justice soutiennent les survivantes de VGB pour qu'elles aient accès à des services juridiques sûrs et centrés sur elles, qui protègent leurs droits et favorisent leur accès à la justice. Les survivantes de VGB doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées qui leur permettent de mieux contrôler leur vie. Ce processus d'autonomisation comprend l'accès à l'information juridique et à l'aide juridique. La justice et l'aide judiciaire doivent faire partie d'une réponse sûre, non stigmatisante et multisectorielle à la VGB. Elles doivent être dotées d'un personnel qualifié, accessible aux survivantes de VGB et intégrées au système général de référencement en matière de VGB. C'est ainsi que nous clôturons le 10e épisode de la mini-série sur les normes minimales interorganisation pour la programmation d'action de lutte contre la VGB. Si vous utilisez le guide d'animation pour poursuivre votre apprentissage, nous espérons que ce n'est que le début de votre discussion.